pour l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Fidèle auditeur et internaute de la radio Okapi, bienvenue à l'écoute de l'émission Bana Okapi. Ce programme est dédié aux plus jeunes. Il est réalisé en partenariat avec l'UNICEF du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Nous parlons éducation, environnement, protection des droits de l'enfant, entrepreneuriat et santé. Mimi Kindou assure la mise en onde de cette émission produite par Rosalie Zawadi depuis Goma au Nord Kivu et Sarah Sumbela. Une coproduction de Murphy Fika, Grasson Vuezolo, Gisèle Cage et à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Stanislas Diomi à la présentation. Le programme d'aujourd'hui est consacré à l'entrepreneuriat des jeunes. Vous êtes jeune et vous voulez vous lancer pleinement dans votre activité entrepreneuriale dès le début de votre projet. Ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas non plus les conseils d'experts ou d'entrepreneurs aguerris. Ils sont le mieux placés pour vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils ont déjà fait les faux pas que vous pourriez commettre et on a appris de ces erreurs. Pour cela, nous vous proposons deux jeunes entrepreneurs aguerris. D'abord, John Kavouavou, entrepreneur social et fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy. En séjour au pays après 17 années passées aux États-Unis, John Kavouavou est déterminé à contribuer au développement de la République démocratique du Congo en promouvant l'entrepreneuriat local. Cette semaine, il organise à Goma, dans la province du Nord Kivu, la foire agro-industrielle et artisanale Marifa. Cet événement est placé sous le thème du patriotisme économique. Nous serons ensuite à Kinshasa pour recevoir Jean-Si Kimbangu Siwambanza, expert en communication et événementiel, ainsi qu'en management de projet. Il est en même temps général manager de Kim Agency Sarlu et coach en entrepreneuriat et technique de négociation. Il vous parlera de son expérience dans l'entrepreneuriat ainsi que de quelques astuces pour réussir votre projet. Notre premier invité est John Kavouavou, entrepreneur social et fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy. Dans cet entretien, il revient d'abord sur son parcours. Il a été reçu dans nos studios de Goma par Rosalie Zawadi. Là, il va nous expliquer son parcours et ce qu'il comprend de l'entrepreneuriat. On l'écoute.
Monsieur John Kavouavou, bonjour.
Bonjour, Maman Rosalie.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans nos studios de Radio Okapi à Goma pour parler de votre parcours comme entrepreneur. Vous suivez quelle filière à l'université ou même à l'école secondaire?
Alors, s'il faut que je parle de mon parcours scolaire et puis académique, je commencerai justement au début. Je commence mes études déjà à l'école primaire à Butembo, là où je suis né. Et c'est là que je fais mes études primaires. Après cela, je quittais Butembo pour venir ici à Goma, où j'ai étudié à l'Institut Faraja, si cela n'est pas une publicité. Je fais 2 ans là-bas, à l'école secondaire donc, et c'est à 1994, suite à ce qui s'était passé au Rwanda en 1994, j'étais obligé donc de quitter Goma pour aller à Kinshasa. Et c'est là donc que je fais le reste de mes études, où j'ai fait les mathématiques, en fait, maths physique. Ouais, alors une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'état, je suis retourné à Butembo où j'ai fréquenté l'université adventiste de Lukanga et j'ai obtenu mon bachelor, comme on le dit, en informatique et économie. Et de là, je suis parti étudier en Inde. Cela fait que je fais ma première maîtrise en planification de développement. Et après cela, je suis retourné au pays. Je me suis marié Et puis je suis parti aux États-Unis où j'habite, où je reste. Et là, je fais ma deuxième maîtrise en entrepreneuriat social à l'Université d'Amérique.
Là, c'est les parcours scolaires. Mais dans votre jeune âge, est-ce que il y a eu des modèles qui vous ont inspiré, je ne sais pas, dans votre entourage?
Alors, je dirais que depuis les jeunes âges, à part le fait que j'avais, cette vision, je me disais que j'allais devenir prêtre quand j'étais encore trop jeune. Je pensais sérieusement à cela, mais cela n'est pas arrivé.
Pourquoi?
Je ne sais pas trop, mais plus je grandissais, plus j'étais intéressé au monde entrepreneurial. Et je me suis dit, écoutez, est-ce que je serai combiné la prêtrise et voilà et les business? C'était pas quand même facile que ça. Alors ça c'est juste une des raisons pour lesquelles je me suis décidé de ne plus développer cette idée de devenir prêtre pour finalement me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors je dirais que j'étais parce que déjà quand vous voyez la ville de Butembo, tout le monde plus ou moins entrepreneur, tout le monde fait des affaires. Et c'est ce qui m'a déjà inspiré, c'est ce qui m'a bercé dans mon jeune âge. Et j'ai été inspiré, bien évidemment, par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires sur place à Butembo et puis à Goma ensuite. Et je crois que c'est dans mon ADN, je dirais ainsi, parce que ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, ils savent que généralement les peuples Nandé, ils sont connus, ils sont réputés d'être entrepreneurs. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Donc je dirais que déjà dans mon ADN, il y a cet esprit, si vous voulez, entrepreneurial. Et donc partout où j'allais, à Goma, à Kinshasa, et aussi en Inde où j'ai vécu pendant 3 ans, et maintenant aux États-Unis où je vis depuis plus de 17 ans maintenant, j'ai toujours été inspiré par ceux qui font ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Et je dirais très souvent, maintenant, je suis plus, au fait, attiré et j'aime beaucoup ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire, non seulement faire les affaires pour gagner de l'argent, bien évidemment, c'est ça, parce qu'on doit créer de la valeur, on doit créer des richesses. C'est ça, en fait, de manière simple, la façon de définir l'entrepreneuriat. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer de la valeur, c'est mais aussi d'impacter la société, en fait, dans laquelle on vit. Pour moi, j'aime bien gagner de l'argent, oui, mais j'aime bien gagner de l'argent en même temps impacter positivement la société dans laquelle je vis.
L'entrepreneuriat social. Ouais. Pouvez-vous nous parler de vos premiers pas dans l'entrepreneuriat? Par quoi vous avez commencé?
Alors, je dirais déjà que quand je commençais, c'était déjà dans l'entreprise familiale, comme presque toute famille qui se respecte dans ma ville de naissance, donc Butembo. Nous avions une boutique familiale, nous avions un business familial, et c'est là que je fais mes premiers pas. Donc de temps en temps, j'y allais et j'ai passé des journées pour travailler avec mes parents, travailler avec mes grands frères, et je dirais que c'est ça déjà qui m'a donné plus ou moins le goût d'entreprendre. Ouais.
Pendant la formation, vous n'avez pas eu à hésiter? Quelle filière choisir?
D'abord, pour arriver justement à déterminer dans quel secteur, dans quelle filière je vais me lancer, j'essaie un peu d'identifier, n'est-ce pas, mes passions. Et ça, c'est un conseil que je donne pratiquement aux jeunes à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec les jeunes gens et aussi d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours dit, écoutez, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses à faire, c'est d'identifier vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne? Parce que il y a toujours des défis, il y a toujours des difficultés lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, si on veut le faire tout simplement pour gagner l'argent, on va très rapidement se décourager parce que cela n'arrive pas tout de suite. Ça prend du temps. Et par rapport à cela, si on est passionné par ce qu'on est en train de faire, quelles que soient les difficultés du début, on trouvera le voie et moyen pour surmonter des difficultés et finalement atteindre, n'est-ce pas, à la réussite. Et pour moi, c'est par là aussi que j'ai commencé. J'ai d'abord commencé par identifier, n'est-ce pas, mes différentes passions. Et comme je le dis, j'ai toujours été passionné par des activités, bien évidemment, entrepreneuriales, mais qui impactent la société. Et c'est par rapport à cela que je me suis beaucoup intéressé au secteur de la microfinance. Et déjà, quand j'étais en Inde, c'est là que je suis entré en contact avec ces secteurs de la microfinance et ça m'a beaucoup intéressé parce que déjà quand j'étais au pays, les secteurs bancaires m'intéressaient beaucoup. Et quand je suis donc arrivé en Asie, précisément en Inde, je suis entré en contact avec la microfinance qui est en fait un secteur bancaire mais pour les gagnes petits. Pour les pauvres, si vous voulez. Alors, c'est un secteur qui m'a beaucoup intéressé et je fais mon ma thèse. Je le fais dans ces secteurs-là. Je fais des recherches sur place en Inde par rapport à ça. Et quand j'ai quitté donc l'Inde, je suis retourné au pays et j'ai initié une institution de microfinance. Et c'était facile pour moi. Déjà, si je peux vous raconter la petite histoire, c'est que ma mère était dans le domaine de la friperie. Donc, elle vendait de la friperie. Et elle avait déjà constitué un groupe des mamans qui se cherchaient et souvent d'autres mamans qui venaient auprès d'elle pour chercher, solliciter des conseils parce que ma mère dans la société était considérée comme une femme sage. Alors beaucoup de mamans venaient auprès d'elle pour solliciter des conseils et curieusement elle constatait que la plupart de ces mamans avaient des difficultés notamment parce que déjà financièrement ça faisait problème dans leur famille. Alors elle les initiait n'est-ce pas à faire ces business de friperie et là elle leur donnait de petits crédits, c'est-à-dire une partie de ce stock de friperie pour qu'elles aillent vendre dans différents marchés et gagner un tout petit peu et venir rembourser. Alors, quand je suis entré en contact avec le secteur de la microfinance, n'est-ce pas, en Inde, je me suis dit, écoutez, ça c'est exactement ce que ma maman est en train de faire. Bien sûr que ma maman n'utilise pas l'argent pour donner de microcrédits, mais elle utilise plutôt ce qu'elle a. Donc, le stock de ses friperies qu'elle distribue aux différentes mamans qui vont vendre et venir rembourser. Alors, je me suis dit, écoutez, comme j'ai l'idée de créer une institution de microfinance, nous allons partir de ces groupes informels déjà constitués par ma mère pour, n'est-ce pas, commencer à travailler avec elle et voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, diversifier les produits. C'est-à-dire à part les crédits en nature, s'il faut les appeler ainsi, que ma mère donnait à ses mamans, on pourra voir d'autres mamans qui aussi sont dans des difficultés et qui sont intéressées aussi à faire les petits commerces dans le coin de la rue. On pourra peut-être leur donner accès à certains crédits, n'est-ce pas, en cash, en espèces, pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, travailler dans les secteurs de leur choix. C'est comme cela que nous avons commencé donc à inclure d'autres mamans et à diversifier les types d'affaires, les types de business. Et de là, on est né à une institution de microfinance que nous appelons Pro Microfinance.
Pro Microfinance.
Oui.
Et le capital de lancement, il vient d'où?
Le capital de lancement, en fait, est venu de nos propres moyens. Parce que avant de pouvoir solliciter les autres de venir investir dans votre institution de microfinance, il faut déjà avoir, n'est-ce pas, ce premier pas pour arriver, n'est-ce pas, à convaincre les autres. Donc, pour commencer, nous avions d'avoir commencé avec nos propres moyens. C'est-à-dire, on a puisé, si vous voulez, dans la poche familiale pour pouvoir commencer cette initiative.
Donc, ce sont les parents qui ont appuyé, c'est ta première entreprise.
Exactement. Les parents et les parents et les grands frères.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est?
Alors aujourd'hui, nous avons un portefeuille qui est constitué de plus de 3500 entrepreneurs. Et bien évidemment, aujourd'hui, on ne travaille pas seulement avec les mamans, mais nous travaillons aussi avec les hommes.
Donc, votre famille vous a appuyé, mais il y a des jeunes qui n'ont pas cette opportunité. À ce niveau-là, quel conseil pouvez-vous leur donner?
Alors, le conseil que je peux donner aux conseils qui n'ont peut-être pas la chance de y en faire partie ou alors être issu d'une famille où tu peux obtenir un soutien pour te permettre de te lancer, c'est que essayer de te battre pour trouver ne fût-ce qu'un boulot, un travail, pour être un employé quelque part, gagner de l'argent, mais en même temps, lorsque vous gagnez, ne dépensez pas le tout. Donc, constituer une épargne qui pourra vous permettre progressivement de constituer un capital qui pourra ensuite vous permettre, n'est-ce pas, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi, un autre conseil très important aux jeunes, c'est que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, lorsque vous êtes au début, comme on l'a toujours dit, le business ou alors votre entreprise ne va pas commencer à produire suffisamment du jour au lendemain pour pouvoir subvenir aux besoins, à vos besoins. Donc généralement, il faut toujours commencer par combiner les deux. C'est-à-dire, vous travaillez quelque part pour un salaire mensuel et en même temps, vous commencez un petit business quelque part. Bâtir ces business progressivement jusqu'à ce que ces business sera à mesure de subvenir à vos besoins. Maintenant, vous pouvez quitter les boulots pour vous lancer à 100% dans l'entrepreneuriat.
Et après cette première entreprise, vous avez diversifié vos actions?
Oui, après cette entreprise, vous savez, quand on se lance dans un secteur donné, on apprend en même temps, parce que nous sommes des apprenants à vie pratiquement. Alors, dans les secteurs de la microfinance, ce que j'ai appris, c'est que écoutez, donner juste l'argent aux entrepreneurs ne suffit pas pour les amener à la réussite. Il y a un autre aspect qui est important, c'est l'accompagnement, notamment aussi la formation. Alors, je me suis aussi intéressé à cela et donc nous avons commencé à combiner, n'est-ce pas, l'octroi de microcrédit aux formations, c'est-à-dire former les entrepreneurs, à les aider à, n'est-ce pas, commencer à tenir, ne fût-ce qu'une petite, très petite comptabilité, arriver à maîtriser, n'est-ce pas, les chiffres, parce que lorsque vous êtes en train de gérer un petit business, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut être à mesure, n'est-ce pas, de comprendre vos chiffres, c'est-à-dire savoir combien vous investissez pour produire telle ou telle autre chose. Et une fois que vous allez vendre, il faut savoir exactement quelle est votre marge bénéficiaire, c'est-à-dire votre bénéfice et de combien. Voilà, ça c'est très important parce que lorsque vous ne maîtrisez pas vos chiffres, c'est difficile de savoir si vous êtes en train de gagner ou si vous êtes en train de perdre. Et ça, c'est un aspect très important et très élémentaire aussi.
Oui.
Lorsque vous travaillez, c'est pour gagner. Alors, il faut vous assurer que vous êtes en train de gagner. Et si vous gagnez, vous gagnez combien? Et voilà, si vous voulez gagner plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies à mettre sur place pour pouvoir, par exemple, gagner plus?
Mm-hmm. Ouais. Et ça, c'est dans le cadre de votre entrepreneuriat social, n'est pas que donner l'argent, mais s'assurer que l'argent qui est donné produit des bons résultats pour les bénéficiaires.
Très, très important, parce que il faut savoir que l'argent, c'est un couteau à double tranchant, comme on le dit. C'est-à-dire, vous pouvez donner quelqu'un l'argent pour l'aider, mais ça peut le détruire si vous ne lui donnez pas suffisamment de connaissances pour mieux gérer cet argent-là. Et c'est là que donc nous nous sommes dit, ben écoutez, nous devons aussi nous investir dans l'octroi des connaissances. Nous devons donc nous investir aussi dans la connaissance. Et cela d'ailleurs doit précéder l'octroi de l'argent, l'octroi de crédit. Donc vous assurez que l'entrepreneur a des connaissances dont il a besoin justement pour mener à bien son entreprise et pour mieux gérer, n'est-ce pas, l'argent qu'il peut recevoir. Soit de lui-même, soit de la famille, ou soit d'une institution financière.
Et c'est là que vous créez Maarifa Learning Center.
Exactement, exactement. Donc c'est là qu'est née Maarifa, qui veut tout simplement dire en swahili connaissance.
Mm-hmm.
Voilà un peu.
Maarifa est née combien de temps après cette première entreprise de microfinance?
Oui, je dirais que Maarifa est née plus tard, mais en soi, on le faisait déjà avant qu'on en fasse une institution, ou alors une organisation à part entière. Déjà, nous avions compris que pour déjà le secteur, pour la microfinance, avec ces mamans avec qui on travaillait, il fallait de temps en temps organiser, n'est-ce pas, des séminaires de formation sur différents sujets justement ayant trait à l'entrepreneuriat, mais aussi ayant trait à la vie générale, parce que notre vie personnelle influence d'une manière ou d'une autre les business que nous faisons ou l'entreprise que nous gérons. C'est-à-dire, si on est déjà désorganisé dans sa vie personnelle, probablement on va amener ces désordres aussi dans l'entreprise.
Mmh.
Alors, on essaie un peu de toucher tous les sujets. Parfois, on organise des séminaires sur des sujets qui ne touchent pas directement sur l'entrepreneuriat, mais nous, on sait que, écoutez, quelque part, ça influence aussi.
Mmh.
Ouais, c'est cela. Parce que, bon, voilà. Quand on est entrepreneur, on vit aussi dans la société. Et pour dire qu'il faut savoir ce qui se passe dans la société et ce qui peut d'une manière ou d'une autre influencer votre business. Il faut savoir ce qui se passe dans votre vie personnelle et qui peut aussi d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, influencer l'avenir de votre entreprise. Alors, plus tard maintenant, pour répondre justement à votre question, c'est que nous venions de créer Maarifa il y a un an aujourd'hui, pour justement à séparer cet octroi de microcrédit à la formation et essayer un peu de nous organiser davantage, parce que lorsque on organisait ces formations sous cette autre organisation qui se spécialise dans l'octroi de microcrédit aux entrepreneurs, alors on n'accordait pas suffisamment de temps, bien évidemment, à cet aspect à formation. Alors c'est pourquoi nous sommes dit, écoutez, créons une institution, une organisation à part entière qui va se focaliser rien que sur les formations ou l'accompagnement des entrepreneurs en termes de s'assurer qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont des compétences nécessaires dont ils ont besoin pour réussir.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Monsieur John Kaviavou, vous étiez déjà bien installé avec votre entreprise de microfinance et vous avez décidé de quitter le pays. Pourquoi?
Alors, la petite histoire, c'est que déjà quand j'étudiais en Inde, j'avais appris par les amis qu'il y a ce qu'on appelle la loterie pour ceux qui sont intéressés à aller aux États-Unis et ça se joue chaque année. Alors, un peu comme de la blague, je suis allé jouer aussi avec les amis et j'ai oublié. Et j'ai terminé mes études en Inde, je suis retourné au pays, on a continué à travailler, formaliser notre institution de microfinance notamment. Et je crois un an ou deux ans après, j'ai appris une nouvelle par les amis qui étaient restés en Inde, qui étaient encore en Inde, que je venais de recevoir une lettre à provenance des États-Unis. Et on m'a dit que cette lettre venait d'une ville qu'on appelle, venait de Kentucky. Et je ne savais pas Kentucky c'est quoi. Bien sûr que j'avais mon grand frère aux États-Unis et il ne m'avait jamais envoyé un courrier, communiqué par d'autres moyens, mais il m'envoyait un courrier sans m'informer. Alors j'étais plus ou moins étonné. Et je les ai dit, écoutez, ouvrez le courrier pour le lire et me dire qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ah, le courrier est arrivé en Inde.
En Inde, voilà, pendant que moi j'étais déjà de retour au pays. Et quand ils ont lu la lettre, ils m'ont dit, écoutez John, tu te rappelles, il y a un peu plus d'un an, on a joué à la loterie DV pour voyager aux États-Unis. J'ai dit, oui, je me rappelle bien. Ils ont dit, écoutez, tu as été sélectionné. J'ai dit, waouh. Et curieusement, c'était juste une semaine après notre mariage. Alors, quand j'ai informé mon épouse, elle me dit, écoutez, je viens de recevoir un courrier en Inde. On me dit que j'ai été sélectionné pour aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, écoutez, peut-être c'est un cadeau de mariage. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, j'ai demandé à ces gens-là, à mes amis en Inde. Je dis, écoutez, je les ai envoyé l'argent pour qu'ils m'envoient le courrier par DHL. Et le courrier est arrivé et nous avons lu. Il y avait des formulaires qu'il fallait remplir. Alors, comme je venais d'échanger des statuts, et donc il fallait donc noter que je venais de me marier. Et j'ai introduit les dossiers au niveau de l'ambassade des États-Unis et c'est comme ça qu'on a commencé donc les procédures pour obtenir le visa, la carte verte comme on l'appelle. Et c'est donc à 2007 que nous sommes finalement, que nous sommes allés aux États-Unis. Mais bien évidemment, nous sommes partis aux États-Unis avec nos rêves. Et nous avons pris ça en fait comme une bénédiction. Nous nous sommes dit, écoutez, Dieu nous a envoyé là-bas pour qu'on aille apprendre. Et puis revenir au pays pour faire quelque chose. Et nous sommes allés avec cette idée-là et chaque fois que nous apprenons quelque chose tout autour de nous, on s'est dit, écoutez, est-ce que ceci peut être utile, ceci peut aider au pays? Et c'est comme ça qu'on a toujours été en contact avec les équipes qui sont ici sur place et on a toujours travaillé avec ceux qui sont sur place, même bien qu'on était loin, bien qu'on était aux États-Unis. Et on fait toujours un effort pour retourner au pays tous les deux ans et dernièrement chaque fois, parfois chaque année. Ou l'entreprise que nous alors on n'accordait pas suffisamment de temps bien évidemment à cet aspect à formation. Alors c'est pourquoi nous sommes dit, écoutez, créons une institution, une organisation à part entière qui va se focaliser rien que sur les formations ou l'accompagnement des entrepreneurs en termes de s'assurer qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont des compétences nécessaires dont ils ont besoin pour réussir.
Radio Capi, le souffle du Congo.
Monsieur John Kaviavou, vous étiez déjà bien installé avec votre entreprise de microfinance et vous avez décidé de quitter le pays. Pourquoi?
Alors, la petite histoire, c'est que déjà quand j'étudiais en Inde, j'avais appris par les amis qu'il y a ce qu'on appelle la loterie pour ceux qui sont intéressés à aller aux États-Unis et ça se joue chaque année. Alors, un peu comme de la blague, je suis allé jouer aussi avec les amis et j'ai oublié. Et j'ai terminé mes études en Inde, je suis retourné au pays, on a continué à travailler, formaliser notre institution de microfinance notamment. Et je crois un an ou deux ans après, j'ai appris une nouvelle par les amis qui étaient restés en Inde, qui étaient encore en Inde, que je venais de recevoir une lettre à provenance des États-Unis. Et on m'a dit que cette lettre venait d'une ville qu'on appelle, venait de Kentucky. Et je ne savais pas Kentucky c'est quoi. Bien sûr que j'avais mon grand frère aux États-Unis et il ne m'avait jamais envoyé un courrier, communiqué par d'autres moyens, mais il m'envoyait un courrier sans m'informer. Alors j'étais plus ou moins étonné et je les ai dit, écoutez, ouvrez le courrier pour le lire et me dire qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ah, le courrier est arrivé en Inde.
En Inde, voilà, pendant que moi j'étais déjà de retour au pays. Et quand ils ont lu la lettre, ils m'ont dit, bah, écoutez John, tu te rappelles, il y a un peu plus d'un an, on a joué à la loterie DV pour voyager aux États-Unis. J'ai dit, oui, je me rappelle bien. Il dit, bah, écoutez, tu as été sélectionné. J'ai dit, waouh. Et curieusement, c'était juste une semaine après notre mariage. Mm-hmm. Alors, quand j'ai informé mon épouse, je dis, bah, écoutez, je viens de recevoir un courrier en Inde, on me dit que j'ai été sélectionné pour aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, bah, écoutez, peut-être c'est un cadeau de mariage. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, j'ai demandé à ces gens-là, à mes amis en Inde. J'ai dit, bah, écoutez, je les ai envoyé l'argent pour qu'ils m'envoient le courrier par DHL. Et le courrier est arrivé et nous avons lu. Il y avait des formulaires qu'il fallait remplir. Alors, comme je venais d'échanger des statuts, et donc il fallait donc noter que je venais de me marier. J'ai introduit les dossiers au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et c'est comme ça qu'on a commencé donc les procédures pour obtenir les visas, la carte verte, comme on l'appelle. Et c'est donc à 2007 que nous sommes allés aux États-Unis. Mm-hmm. Mais bien évidemment, nous sommes partis aux États-Unis avec nos rêves. Et nous avons pris ça en fait comme une bénédiction. Nous nous sommes dit, bah, écoutez, Dieu nous avoir là-bas pour qu'on aille apprendre. Et puis, revenir au pays pour faire quelque chose. Mm-hmm. Et nous sommes allés avec cette idée-là. Et chaque fois que nous apprenons quelque chose tout autour de nous, on se dit, bah, écoutez, est-ce que ceci peut être utile, ceci peut aider au pays? Et c'est comme ça qu'on a toujours été en contact avec les équipes qui sont ici sur place. Et on a toujours travaillé avec ceux qui sont sur place, même bien qu'on était loin, bien qu'on était aux États-Unis. Et on fait toujours un effort pour retourner au pays tous les 2 ans et dernièrement, chaque fois, parfois chaque année.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bana Okapi se poursuit sur les antennes de la fréquence de la paix. Ses programmes et produits depuis la ville de Goma par Rosalie Zawadi et Sarah Sumbila depuis Kinshasa. Dans cette deuxième partie, notre invité John Kavouavou, entrepreneur social et fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy, parle de quelques clés de succès dans l'entrepreneuriat.
Pour les jeunes qui nous écoutent, vous avez déjà donné quelques conseils. Pour vous, quelles sont les clés basiques des succès pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer?
Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer, je dirais pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il est très important de se connaître. Je répète encore, il est très important de connaître ses passions. À un moment donné, dans la prière familiale à la maison, j'avais échangé, en fait, je posais, ma fille de 12 ans m'avait posé la question de savoir, papa, comment, parce qu'on parlait en fait de la mission, on dit que tous, nous sommes nés, nous sommes envoyés ici sur terre avec une mission spéciale. Nous ne sommes pas ici un peu par hasard. Dieu nous a créés pour une mission spéciale. Alors ma fille m'avait posé la question de savoir, papa, comment savoir ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi je suis ici. Alors ma réponse était que, il faut identifier les talents que tu as. Parce que si Dieu t'a créé, il t'a donné les talents que tu as, c'est qu'il veut que tu puisses utiliser ces talents-là, n'est-ce pas, pour impacter, n'est-ce pas, le monde. Et par rapport à cela, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, de dire, bah, écoutez, identifiez vos talents, parce que c'est pour une raison que Dieu vous a donné les talents que vous avez. Et utilisez ces talents-là pour identifier les secteurs, par exemple, dans lesquels vous allez évoluer. C'est très, très important. Voilà.
Donc, identifier ses talents et les développer au besoin, en cas de besoin.
Exactement. Identifier vos talents, bien sûr, ça, il ne suffit pas d'avoir les talents. Il faut maintenant les développer pour en faire, par exemple, que ce soit votre carrière, par exemple. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, identifier vos talents et bien évidemment, associer vos talents à vos passions. Voilà. Parce qu'on peut avoir plusieurs talents. Il faut identifier ces talents-là d'abord et puis savoir si ça vous passionne. Et puis, bon, vous vous lancez, vous essayez d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, avoir des connaissances pour améliorer ces talents-là et en faire votre carrière dans la mesure du possible.
Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez eu à commettre ou des choses que vous regrettez dans votre parcours?
Ah oui, les erreurs, je dirais que ça fait partie de la nature humaine. Et Et quelque part, il faut faire avec. Et je me suis toujours dit que, et c'est pas moi qui le dis, c'est, je crois, Mandela qui l'avait dit, que chaque fois que nous échouons, nous ne considérons pas cela comme un échec, mais nous considérons cela comme une leçon. On voyait un peu. Alors, ceux qui ont réussi aujourd'hui, si vous échangez, vous parlez à tous ceux qui ont réussi, tout le monde vous parlera des erreurs, des échecs qu'ils ont connus. Mais en réalité, il faut considérer ces échecs comme des formations, comme des leçons, et n'est-ce pas bâtir sur cela pour faire mieux dans l'avenir.
Mm-hmm. Ouais. Alors, Monsieur John Kaviavu, parlons à présent de la foire agro-industrielle et artisanale cette semaine à Goma, mais aussi à Butembo.
Alors, c'est Marifa, qui est bien évidemment à l'organisation que nous venons de commencer il y a un an. Nous spécialisons justement dans l'accompagnement des entrepreneurs pour nous assurer, comme je l'ai dit tantôt, qu'ils ont de connaissances, des compétences dont ils ont besoin pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, nous nous sommes dit, écoutez, parler de l'entrepreneur, c'est beaucoup plus général. Nous nous sommes dit que nous allons nous focaliser sur les entrepreneurs qui sont dans la transformation, c'est-à-dire les entrepreneurs qui fabriquent différents produits localement, mais aussi d'autres qui offrent des services. Alors, nous focalisons donc sur les entrepreneurs transformateurs, ceux qui transforment des produits ou alors des matières généralement disponibles localement en produits finis. C'est au fait cela avec qui nous travaillons. Et nous travaillons donc pour promouvoir ce produit et aussi soutenir, accompagner ces entrepreneurs sur la voie de la réussite. Et donc, lorsque nous parlons de la promotion, nous initions un certain nombre d'activités, notamment des foires. Donc, nous avons nommé cette foire comme la foire agro-industrielle et artisanale de Butembo, Beni, pour ce qui est de la foire de ce côté-là. Mais ici à Goma, c'est la foire agro-industrielle et artisanale de Goma. Alors, pour Goma, c'est la toute première édition, ce vendredi et samedi de ce mois de mars, donc le 15 et le 16 mars, à la place Full Gospel. Et pour Butembo et Beni, donc celle de Butembo réunit les entrepreneurs de Butembo et de Beni, c'est la deuxième édition parce que la première avait eu lieu l'année passée, donc 2023. Et notre objectif, c'est d'ajouter une ville de la RDC chaque année. Donc comme la deuxième année, nous sommes à Goma. Nous espérons que Dieu aidant, la troisième année, nous serons à Bukavu aussi, pendant qu'on sera en train d'organiser la deuxième édition à Goma, la troisième édition à Butembo, ça sera la première édition à Bukavu, ainsi de suite.
Ouais. Et l'objectif de cette foire agro-industrielle et artisanale?
Alors, l'objectif principal de cette foire, c'est de mettre en contact ces entrepreneurs qui sont dans la transformation, le mettre en contact, n'est-ce pas, avec le public, le mettre en contact avec la population qui est en fait leur client naturel. Et aussi sensibiliser, n'est-ce pas, cette population à consommer local. Et en fait, notre thème de cette foire, notre thème, c'est le patriotisme économique. Donc là, nous échangeons avec la population pour leur expliquer que lorsque ils consomment le produit qui sont fabriqués localement, c'est une manière de soutenir l'économie de ce pays. C'est une manière de soutenir l'économie de sa province, l'économie de sa ville. Et donc, nous avons tous intérêt à consommer ce qui est local parce que c'est une manière pour nous, n'est-ce pas, de contribuer au développement. Et je peux vous dire aujourd'hui que il n'y a aucun développement qui soit possible sans l'industrialisation. Alors c'est avec ces entrepreneurs justement que nous sommes en train de travailler sur l'industrialisation de notre province, l'industrialisation de notre ville, avec justement ces différents produits qu'ils vont exposer au cours de notre foire. Et voilà, il y a déjà une grande diversité et je dois avouer que nous-mêmes nous sommes très émus par lorsque nous voyons, parce que pendant les formations que nous sommes en train d'organiser avant la foire, on demande aux entrepreneurs de venir avec les échantillons. Et c'est surprenant de voir non seulement la diversité, mais aussi la qualité de ce produit.
Justement, les patriotismes économiques, quel message à vous comme entrepreneur social actif dans ces secteurs avez-vous à donner à la population qui choisit en premier ce qui vient de l'extérieur, s'il y a deux produits, un jus, ou alors deux jus, un jus fabriqué à Goma par exemple, un autre qui vient d'un pays de l'Est, il va prendre les jus qui nous viennent de l'extérieur.
Alors, ce que j'ai toujours dit, Ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que il faut savoir que notre argent, c'est notre force. Notre argent, c'est notre pouvoir. Et lorsque nous dépensons cet argent, c'est un pouvoir que nous donnons à l'autre là, auprès de qui nous avons acheté le produit ou les biens que nous avons achetés, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous achetez un produit qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est votre pouvoir que vous envoyez trop loin de vous. Mmh. Tandis que lorsque vous achetez un produit local, c'est votre pouvoir qui reste dans votre pays. Et probablement, très rapidement, ce pouvoir-là va tourner encore et ça va vous revenir. Mmh. Et c'est au fait comme cela que le développement arrive. Donc, lorsque vous achetez un produit qui vient de l'étranger, qui vient de trop loin, c'est votre pouvoir économique, comme on l'appelle, c'est votre pouvoir financier que vous êtes en train d'envoyer trop loin de vous. Et lorsque vous prenez, par exemple, les statistiques au niveau national, au niveau de la RDC, on vous parle de plus de 7 milliards de dollars que nous envoyons à l'extérieur juste pour notre consommation. Et ça, c'est quand même très dangereux pour l'économie d'un pays. Alors, bien sûr, nous, on travaille sur cet aspect-là au niveau local. Mais lorsque vous prenez les statistiques au niveau national, c'est quand même alarmant. Et je crois que nous devons travailler sur la sensibilisation de la population pour que nous puissions, dans l'ensemble, nous libérer, n'est-ce pas, de cette sorte d'esclavage. Parce qu'en réalité, nous héritons cette mentalité de l'esclavage où on croit que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. C'est ce qui vient de l'extérieur qui est mieux. Mais aujourd'hui, nous qui travaillons avec les entrepreneurs, qui sont dans la petite industrie localement, nous pouvons vous assurer que cela n'est pas du tout vrai. Nous avons beaucoup de cas où le produit que vous achetez localement peut durer 10 fois plus, par exemple, que le produit que vous achetez à l'extérieur.
Là, vous parlez par exemple des machines produites localement.
Exactement. Je parle par exemple des machines produites localement. Je parle même des chaussures. Sauf lorsque vous prenez des chaussures qui sont fabriquées localement, vous les comparez par exemple aux chaussures qui nous viennent par exemple de la Chine. Alors, généralement, vous allez trouver que ce qui est produit localement, c'est en cuir, le vrai cuir. Et aussi en termes de qualité, même aussi le prix. Parfois, ça peut coûter un peu plus cher que ce qui vient de la Chine. Mais ce qui vient de la Chine, vous allez porter ça aujourd'hui, demain, et quelques mois après, vous allez trouver que ce n'est plus la même chaussure que vous avez achetée. Mmh. Mais celle que vous avez achetée localement, en fait, ça dure, comme je l'ai dit, 10 fois plus.
Mmh. Ouais. Et ce sont ces différents produits locaux que la foire met en valeur.
Exactement. C'est donc ces différents produits qui seront exposés et qui seront vendus pendant la foire. Et voilà. Donc il y aura différentes sortes de jus, il y aura des chaussures, il y aura des ceintures, il y aura des machines aussi fabriquées localement comme des incubateurs d'œufs. Il y aura beaucoup alors. Beaucoup, beaucoup de produits. De Brasero et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Le produit des beautés fabriqué localement. Donc, c'est une découverte. Et oui. Donc, c'est un événement à ne pas manquer.
Donc, c'est un appel à la population de Goma, de Butembo, de Beni, de venir participer massivement.
Tout à fait.
Mais, monsieur John Kaviavu, vous venez organiser cette deuxième foire agro-industriel et artisanal à Goma, ou disons au Nord Kivu, parce que c'est dans les trois villes, pendant que la province fait face à des défis sécuritaires. On a du mal à s'approvisionner des territoires parce que les routes ne sont plus accessibles. Quel rôle veut jouer cette foire aujourd'hui dans les contextes actuels?
Je crois que cette foire va aussi, dans cette promotion, n'est-ce pas, de produits locaux, ça va nous permettre de développer les secteurs, n'est-ce pas, local et la production locale. Tout simplement parce que vous voyez, lorsque nous sommes trop dépendants de l'extérieur, ça fait bien évidemment des difficultés. Vous vous rappelez, à un moment donné, à cause notamment de la crise sanitaire de Covid, mais aussi avec la guerre en Europe, Ukraine et Russie. À un moment donné, dans les continents africains, on avait le problème parfois à accéder à un certain nombre de produits de première nécessité, tout simplement parce que il fallait attendre, par exemple, la farine qui vient de l'Ukraine. Et on s'est dit, mais comment dépendre, par exemple, d'un pays aussi lointain pour un besoin de base, par exemple, comme le blé? Et ça n'a pas de sens. Alors, notre, justement, notre foi, c'est aussi la promotion de la production locale, de telle sorte que, pour un certain nombre de besoins, que cela soit, n'est-ce pas, que la production locale, n'est-ce pas, soit à mesure de satisfaire, n'est-ce pas, les besoins au niveau local, et donc développer notre résilience en termes de subvenir à nos besoins, quel que soit ce qui peut se passer tout autour de nous, dans les pays voisins, ou même à l'intérieur du pays. Suite, par exemple, au problème d'accessibilité de route, comme vous l'avez bien souligné.
La foire, comme je le disais, dans les contextes du Nord Kivu, les gens s'élancent, ou les entrepreneurs s'élancent dans différents secteurs, mais font face au manque d'épée. Est-ce que vous avez eu à partager sur ces freins qui maintient beaucoup d'entrepreneurs au bas niveau?
Alors ça, c'est une question très très capitale et très importante, parce que déjà dans l'organisation de cette foire, nous nous sommes trouvés confrontés à des difficultés. Comme vous le savez, je suis venu des États-Unis pour venir participer à l'organisation de cette foire. Et déjà là-bas, on me disait, mais John, comment toi tu peux prendre ce courage, n'est-ce pas, d'aller à Goma avec toutes ces informations que nous avons par rapport à la situation de guerre dans cette partie de la République. Alors quelque part, nous nous sommes dit, bah, écoutez, on ne peut pas espérer, n'est-ce pas, rétablir la paix dans notre pays sans passer aussi par l'entrepreneuriat. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, surtout dans la partie est de la République, nous avons beaucoup de jeunes vulnérables. Beaucoup de jeunes vulnérables qui deviennent aussi, n'est-ce pas, à la cible de différents groupes négatifs. Alors, nous nous sommes dit, écoutez, notre initiative de promouvoir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, la transformation au niveau local, ça permet aussi de créer l'emploi. Créer l'emploi, n'est-ce pas, avec ces différentes entreprises qui sont en train de transformer les matières premières disponibles localement en produits finis, mais aussi ça crée de l'emploi sur toute la chaîne des valeurs, parce que lorsqu'on parle de la transformation, on a besoin de matières premières, et lorsqu'on parle de matières premières, on voit notamment l'agriculture. Donc aussi dans les secteurs agricoles, n'est-ce pas, il y aura aussi un impact, parce que ces entrepreneurs qui sont dans la transformation, leur demande en matières premières va augmenter, et donc ça va impacter l'agriculture, qui va aussi créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Et par rapport à ça, nous pensons que de cette manière-là, nous sommes en train de contribuer non seulement au développement économique de la province, du pays, mais nous sommes aussi en train de contribuer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à l'établissement de la paix dans cette partie de la République, à créer de l'emploi pour les jeunes.
Radio Okapi.
À Goma,
Okapi,
sur 95.5 FM.
Okapi.
Nous revenons toujours avec vous, Monsieur John Kaviavu. Vous nous avez présenté votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prévoyez les prochaines années?
Alors, pour les prochaines années, nous projetons de continuer à agrandir les réseaux des entrepreneurs, parce que comme nous sommes au début ici à Goma par exemple, là nous frôlons déjà les centaines d'entrepreneurs, mais nous savons que ceux-là qui sont déjà dans la petite industrie, ils sont plus nombreux que ça. Alors nous allons donc continuer à agrandir, n'est-ce pas, notre réseau, parce que nous croyons que pour réussir, on ne peut pas réussir individuellement. Il y a beaucoup d'autres défis auxquels ces entrepreneurs font face. Et pour faire de plaidoyer, il faut avoir un grand nombre. Pour pouvoir bénéficier, avoir un certain nombre d'avantages, il faut nécessairement essayer un peu de réunir le plus grand nombre possible. Donc voilà, nous sommes donc dans cette optique-là, cette philosophie-là de collaboration. Alors on veut avoir autour de cette idée, autour de ces concepts, le plus grand nombre possible d'entrepreneurs qui vont, n'est-ce pas, à travailler ensemble pour pouvoir réussir ensemble et donc aller loin.
Et pour terminer, Monsieur John, les entrepreneurs font face à beaucoup de difficultés. Comment cette foire agro-industrielle et artisanale va les aider?
Oui, alors la foire agro-industrielle et artisanale, c'est juste une première activité pour lancer Marifa dans la ville. Mais il y aura d'autres activités après la foire. Et parmi, bien sûr, d'autres activités, et nous les avons déjà commencé d'une manière ou d'une autre, parce que déjà la semaine passée, nous avions eu des formations avec les représentants qui sont venus notamment d'une certaine Ekima, qui est l'institution financière avec qui nous travaillons en partenariat pour l'accès au capital, et bien sûr il y en aura d'autres, mais aussi de l'OCC, l'OCC, l'Office de contrôle congolais, qui est chargé justement de procéder à la certification des produits qui sont fabriqués localement dans ces cas d'espèces. Alors nous travaillons avec, parce que les entrepreneurs ont des difficultés justement à faire certifier leurs produits parce que ça coûte beaucoup d'argent. Alors le rôle de Marifa aussi, ça sera, ensemble avec les entrepreneurs, de faire de plaidoyer au niveau provincial et aussi au niveau national pour qu'on puisse revoir un certain nombre de lois et faire en sorte que le producteur, le petit producteur, puisse, n'est-ce pas, ou puisse créer des lois qui favorisent les petits producteurs. Parce que dans les contextes actuels, les frais qui sont exigés, n'est-ce pas, par l'OCC pour certifier ne fût-ce qu'un seul produit, pour analyser ne fût-ce qu'un seul produit, et ça vous coûte parfois ce qui peut être le capital pour certains de ces entrepreneurs. Mm-hmm. Alors, ils sont obligés d'opérer dans les formels. C'est que nous voulons justement changer. Mm-hmm. Nous voulons les amener de quitter l'informel pour le formel. Alors, par rapport à ça, il y aura de plaidoiries que nous aurons à faire, il y aura de négociations que nous aurons à faire tous ensemble auprès des différentes institutions compétentes, auprès de preneurs de décisions, de telle sorte que ces secteurs de la petite industrie puissent être soutenus aussi par les gouvernements. Voilà un peu.
Donc, pour ceux qui sont à Goma et qui ont besoin de plus d'informations sur votre travail, vous serez disponible à Full Gospel vendredi et samedi.
Oui, le vendredi et le samedi prochain, donc de cette semaine, le 15 et le 16, déjà à partir de 8h, nous serons là et nous vous appelons donc de venir très nombreux pour soutenir ces entrepreneurs. Et nous pouvons tout simplement vous dire que vous ne serez pas déçus. Donc, venez très nombreux. Et aussi pour la partie du Grand Nord de la province, donc à Butembo, ça sera le 22 et le 23 de ce mois de mars. Donc, soyez aussi très nombreux à l'espace Holiday Park, derrière la station TAC. Donc, soyez très nombreux à venir soutenir ces entrepreneurs, à venir soutenir vos entrepreneurs, à venir, n'est-ce pas, promouvoir, n'est-ce pas, le produit fabriqué chez nous.
Et pour des entrepreneurs ou des personnes intéressées à travers les pays qui voudraient entrer en contact avec vous, pouvez-vous partager les contacts?
Alors, pour être plus simple, je vais tout simplement partager mon contact WhatsApp. Donc, ceux-là qui sont intéressés, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être toute autre personne qui a besoin d'un certain nombre de formations sur Marifa. Nous sommes au +1 301 732 24 26. Donc je répète, c'est +1 301 732 24 26. Et donc c'est le numéro WhatsApp.
Merci Monsieur John Kaviavu. Je rappelle que vous êtes un entrepreneur social, directeur de Marifa Learning Center. Pour nous quitter dans ce studio, on peut prendre une chanson, le temps de recevoir les autres membres de l'organisation, et une chanson de votre choix.
Wow, ça c'est une très bonne question. Alors s'il faut que je fasse un choix, je dirais n'importe quelle chanson de Lokwa Kanza.
N'importe quelle chanson de Lokwa Kanza. Et moi je prends Caméra dans les cœurs.
Formidable.
Tango, très beau. Sur la photo c'était parfait. Duo, enlacé, main dans la main, peau contre peau. Accro aux aguets, tu notais tout dans ton carnet. L'écho des couleurs, caméra dans le cœur. Mais l'oiseau tout là-haut, point au-delà des plateaux, pour la voir et en l'attraper, il te voit voler, voler. bateau. À marée basse, on s'en allait. Amour, amour, viens nager. Pagayer dans le bonheur. Allô, tes photos. Caméra dans le cœur, car oiseau tout là-haut, loin au-delà des plateaux, pour la voir et oh, l'attraper, il te faut voler, voler, regarde-les tous ces oiseaux. Ces oiseaux de pluie, ces oiseaux de pleurs, regarde-les tous ces oiseaux. Ces oiseaux de pluie, ces oiseaux de pleurs.
Voilà, c'était Caméra dans le cœur de Lokwa Kanza sur la fréquence de la paix. Nous retrouvons Rosalie Zawadi dans nos studios de Goma. Elle nous propose des témoignages sur le travail de l'organisation Marifa Learning Academy. Le premier intervenant est Monsieur Lunda Frikamil, gérant de l'entreprise Congo et Sengo, suivi de John Chongo.
Monsieur Lunda Frikamil, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes gérant de l'entreprise Congo et Sengo. Congo et Sengo est spécialisé dans quel domaine?
Congo et Sengo est spécialisé dans le domaine de transformation. Nous travaillons dans l'industrie chimique, alors s'il faut le dire.
Mm-hmm.
Nous travaillons les détergents cosmétiques.
Comment elle a commencé Congo et Sengo?
Normalement, Congo et Sengo a commencé dans la province de Haute-Ouélé, là nous sommes à Durba, en 2016.
Mm-hmm.
Nous avons commencé par la fabrication de la craie scolaire, celle que les enseignants utilisent. Là, nous nous appelions Gédias Bell. Comme les enfants, les jeunes adolescents venaient nous aider à emballer de la craie,
mm-hmm.
lorsqu'on leur donnait le peu d'argent qu'ils gagnaient, ils nous dansaient de la musique.
Mm-hmm.
Et alors, ils nous ont suggéré d'échanger les noms, prendre Congo et Sengo, parce que le peu qu'ils gagnaient chez nous leur amenait de la joie. Voilà pourquoi nous avons choisi Congo et Sengo.
Et non plus, j'ai dit Icebell.
Oui.
Congo et Sengo. Donc c'est un hommage à ces jeunes-là. Et vous êtes toujours là-bas à Durba ou vous les avez abandonnés?
Oui, non, nous sommes toujours à Durba. Durba, c'est la maison mère, c'est Sion.
Mm-hmm. Et les jeunes continuent à travailler chez vous?
Oui, ils travaillent toujours chez nous.
Et combien ils gagnaient, ceux qui venaient emballer la craie par jour?
Par un carton de craie, emballer un carton de 20 boîtes, on devait leur donner 1500 francs à l'époque.
Mm-hmm.
Oui.
Et chacun pouvait en emballer combien, par exemple?
Bon, c'est lui qui est vigoureux, pouvait en aller à 5.
5?
Oui.
Donc, ils rentraient avec 7500 francs, le jeudi.
Oui.
Ils étaient très, très contents.
Très contents, alors.
Jeudi, ASBL, Congo et Sengo. Vous arrivez à Goma... Pourquoi vous avez choisi la ville de Goma?
Nous avons choisi la ville de Goma parce que le projet de Congo et Sengo ne devait pas se limiter seulement dans une province, c'est à une visée nationale. Et nous avons choisi de commencer par la ville de Goma. Évidemment, c'est là que le directeur a étudié. Et moi, personnellement, le gestionnaire, j'ai étudié aussi ici à Goma.
Mm-hmm.
Nous avons pensé tout d'abord servir nos écoles de... de ce que nous produisons.
Quelles écoles là où vous
avez étudié? Le gestionnaire a fait l'Instigo et moi j'ai fait l'Elisa Noirite, que je rends hommage, et l'Université catholique La Sapientia de Goma.
Là à Douba, vous avez travaillé avec des jeunes. À Goma, comment vous êtes installé dans la communauté?
Bon, évidemment, quand nous étions à Durban en train de travailler de la crèche scolaire, ce sont des enfants qui devaient venir emballer, mais quand nous avons diversifié les produits, nous avons engagé d'autres jeunes, des responsables, même des papas et des mamans, parce que, à part de la crèche scolaire, nous avons diversifié les produits, nous faisons plus de 29 produits. Et les 29 produits, nous les faisons aussi à Goma. Nous avons lancé la crèche scolaire. Nous avons sensibilisé presque la moitié de nos écoles de Goma pour qu'ils viennent s'approprier de la crèche fabriquée localement ici chez nous. Et après la crèche, nous avons lancé les produits du savon, savon liquide, des lessives. Nous avons approprié un savon spécifique pour nettoyer les carreaux, détergent des carreaux. Il y a des carreaux qui changent d'éclat, mais avec notre produit, nous avons un produit magnifique quant à ça. Nous avons travaillé un produit que nous appelons acide chlorhydrique. Évidemment, c'est de l'acide chlorhydrique. Nous l'appelons des capons ou esprit de sel, qui est spécialisé à déboucher les tuyaux qui sont bouchés au lieu de détruire les fosses et les restes. Nous y travaillons. Nous avons une gamme complète pour les toilettes. C'est-à-dire, la toilette est en train de faire des retours. Nous avons un produit qui peut le garder 6 à 9 mois sans odeur, que nous fabriquons ici à Goma. Et ou alors, elle est pleine au lieu d'utiliser la main d'œuvre humaine. Nous avons un produit à verser dedans et elle va fondre pour recommencer l'activité à nouveau. Nous avons aussi les produits communément appelés Arpic pour détarter les cuves des toilettes, les blanchir. Nous fabriquons aussi de la vime comme un produit qui accompagne les autres là. Nous avons pensé à nos mamans parce que nous sommes dans les mois de la femme. Nous avons dit on ne peut pas vivre à Goma sans penser à nos mamans. Voilà, nous avons fait une gamme complète pour les soins de leur tête. Et nous savons que beaucoup de gens aiment s'entretenir, aiment beaucoup les corps. Nous avons dit nous allons nous lancer dans le domaine de faire les soins des corps. Nous avons commencé par la maman, comme nous avons dit.
Donc, ces différents produits seront à la fois agro-industriels et artisanaux du Goma.
Les tous sont déjà prêts.
Mm-hmm.
Tous les produits, nous avons fabriqué suffisamment, surtout pour cette foire qui s'annonce déjà les 15 et les 16, vendredi et samedi, à la place Full Gospel. Nous avons pensé que c'était l'endroit propice pour que tout le monde puisse passer s'en approprier. Et nous invitons alors tous nos consommateurs de passer ces jours-là. Certains pourront voir et d'autres pourront s'en approprier. Mm-hmm. À part nous, il y a d'autres, parce que moi-même, quand j'ai participé dans des formations, j'ai été émerveillé voir les produits que les collègues ont fabriqués sur place. J'ai vu que les Congos regorgent de génie.
Merci beaucoup, Monsieur Lunda Frekamil, pour être passé à Radio Okapi, nous parler de votre travail. Mais est-ce que vous avez des difficultés comme entrepreneur?
Des difficultés, il y en a énormes. Hein. On ne peut pas vraiment vous les cacher, nous en avons énormes. Les premières que je peux citer d'emblée, nous étions en difficulté de trouver un endroit d'exposition tout d'abord, parce qu'on peut fabriquer un produit et un bon, mais on n'a pas un consommateur. Et les consommateurs, pas qu'il n'y en a pas, mais ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi Marifa a voulu nous faire connaître à notre population locale que nous produisons aussi localement pour aider le développement de notre pays, de notre province aussi en particulier. Et la deuxième difficulté, il y a des entreprises qui sont informelles parce que il y a ceux qui pèsent évidemment sur eux. Vous avez un capital de 300, mais les taxes varient entre 500 et 600. Ça devient une grande difficulté à laquelle nous habitons. La troisième des difficultés, vous savez que nous sommes dans une ville d'insécurité. On dort, on ne sait pas si demain on va se réveiller. On a aussi, on se résigne de produire ou alors de faire connaître ce que l'on est.
Merci beaucoup, Monsieur Lunda. Nous allons poursuivre les échanges à la foire agro-industrielle et artisanale vendredi et samedi.
Merci beaucoup, madame.
Merci.
Nous remercions beaucoup.
Okapi. Encore plus d'infos.
Nous recevons à présent un jeune, John Tsongo. Vous collaborez avec Monsieur John Kaviavu, le fondateur des Maarifa Learning Center, donc le promoteur de la foire agro-industrielle et artisanale. Comment son modèle vous inspire?
En fait, John Kaviavu a suffisamment d'idées, des bonnes idées, il faut le préciser, et il a un esprit positif. il est également un homme qui sait écouter. Et quand vous lui proposez une chose, si elle est vraiment géniale, il la reçoit, il la pratique. Et si elle n'est pas géniale, il ne la rejette pas, mais il vous oriente la façon dont cette chose doit se faire. Et ce sont des très bonnes qualités. Il a une grande vision qu'elle ne sait pas comprendre. Parfois, il fait des choses. Il est visionnaire pour le pays.
Personnellement.
Et ça m'inspire beaucoup.
Uh-huh.
Ça m'inspire parce que avoir un cerveau comme le sien, avec des visions, des idées très émouvantes pour le pays, je me dis pourquoi ne pas emboîter ses pas.
Et comme acteur dans la préparation de la foire agro-industrielle et artisanale de Goma, qu'est-ce que vous avez acquis comme expérience?
J'ai vraiment beaucoup appris. La première chose, c'est que j'ai été émerveillé par la diversité des produits fabriqués par les jeunes locaux, les jeunes entrepreneurs locaux. J'ai été également émerveillé par leur génie créateur, parce que je ne m'y attendais pas, mais j'ai été vraiment surpris. Mais j'ai eu quelque chose en tête, je me suis dit, si nous pouvions nous liguer, nous tous, pour encadrer ces jeunes, asseoir en entrepreneuriat local beaucoup plus encadré, beaucoup plus orienté, ce que serait notre pays dans les 5, même 3 prochaines années, hein, nous serions vraiment très très compétitifs par rapport aux économies des États voisins. Pourquoi ne pas prendre le dessus sur eux?
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Vous venez de suivre Lunda Frikami, le gérant de l'entreprise Congo Essengo, et John Chungu, collaborateur de John Kavuavu, fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy. Après Goma au Nord Kivu, nous sommes à Kinshasa pour retrouver Monsieur Jean-Si Kimbangu Siwambanza, expert en communication et événementiel, ainsi qu'en management de projet. Il est en même temps général manager de Kim Agency Sarlu et coach en entrepreneuriat et technique des négociations. Au micro de Sarah Sumbela, il parle de son expérience dans l'entrepreneuriat.
Monsieur Jean-Si Kimbangu, vous êtes entrepreneur ici à Kinshasa. Pouvez-vous nous rencontrer? Quel est votre parcours?
J'ai d'abord un long parcours que je peux résumer rapidement. J'ai bravé beaucoup de choses dans mon parcours d'entrepreneur. Avant déjà que je finisse mon deuxième cycle universitaire, Jean-Si Kimbangu, que je suis, était déjà dans les postes de direction, dans les différents organes de presse, notamment dans une chaîne de la diaspora comme directeur général, dans quelques chaînes ici que je ne veux pas citer de nom, comme rédacteur en chef, directeur de programme, directeur des informations. Et après, je me suis lancé dans ma passion qui est le secteur publicitaire et événementiel. C'est depuis 2018 que je me suis lancé en solo en créant mon label Kim Agency. Et c'est de là que j'ai commencé à organiser de différents événements à caractère chrétien, gospel. Je réussis à produire le pasteur Mike Alambari. Je réussis à réunir plusieurs artistes gospel de renom, toujours au niveau de l'événementiel. J'ai aussi géré la salle Village Ntemba comme manager qui s'occupait de matières événementielles. Et voilà un peu ce qui a fait vraiment le déclic de ma passion dans l'entrepreneuriat. Et après, c'est là, il y avait un temps mort avec la Covid, tout ça. On a tout de suite, en tant qu'entrepreneur, parce que je fais beaucoup de formations aussi au niveau de management de projet et de gestion de crise, ça m'a permis de tout de suite laisser l'événementiel comme on ne pouvait pas réunir de gens pendant la période de Covid, chercher à braver d'autres compétences en attendant que les choses reviennent à la normale. Et c'est par rapport à ça que j'ai lancé le projet panneau publicitaire et j'ai tout de suite reçu l'agrément je lançais ces 7 heures. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je continue à concevoir des projets, à lancer, et toujours dans le multiservice, parce que ma société est une société qui brave un peu, je crois, je peux résumer 6 à 7 secteurs. Nous sommes déjà dans 3 secteurs qu'on a lancés et on est en train de voir comment est-ce que nous pouvons avancer. Voilà un peu le parcours que je peux succinctement décrire.
Monsieur Joussi, quel a été votre premier pas dans l'entrepreneuriat? Par quoi vous avez exactement commencé?
L'entrepreneuriat, déjà, comme je le dis, c'est une passion pour moi parce que je l'ai hérité de mon père. Mon père, c'est Pascal Siouambanzalaré, qui est devenu de référence au niveau de Tchangou. C'était un très, très grand entrepreneur. Donc, j'avais déjà, je peux dire, ce son-là d'entreprendre. Mais avec le système actuel, l'entrepreneuriat est maintenant formalisé. Il faut suivre des formations pour maîtriser les secteurs et évoluer. Alors moi, je commençais très tôt, avant même que je fasse de formation. J'ai commencé d'abord par l'événementiel depuis 2018, parce que quand je gérais les organes de presse dans des postes de direction, j'avais déjà la facilité de négocier de marchés publicitaires pour alimenter les chaînes. Je trouvais toujours des chaînes télévision et radio, audiovisuel, en dessous de leurs chiffres d'affaires. Alors, il fallait remonter ces chiffres d'affaires. Et moi, en tant que passionné du management et de l'entrepreneuriat, je contactais déjà des contrats avec des structures, des sociétés, pour ne pas faire la publicité, des sociétés qui vendent de l'eau, des produits cosmétiques. Et quand je négociais comme ça, je négociais en tant que particulier. Et c'est après ces contrats-là, moi, je ramène ça dans les organes de presse où je gérais pour appuyer le chiffre d'affaires. Et déjà, je gagnais double. Je pouvais gagner comme négociateur et comme responsable de service. Alors, c'était déjà ça, c'est qui m'a donné vraiment le déclic. Je me suis dit, je peux aussi créer plus tard mon agence de publicité, de communication, comme je suis expert dans la matière, pour que je contracte avec le client et que moi, je puisse m'occuper de leur diffusion et même concevoir les visuels, les publicités, les spots pour eux. Et c'est comme ça que tout a commencé. Après, je commençais à préparer. C'est en 2018 officiellement que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Personnellement, je pouvais organiser des choses, des shows. Comme je le dis, j'ai fait le premier événement avec le pasteur Mike Alambay. À l'époque, il était encore, je crois, quelqu'un à l'église Cité Bethel. C'est comme ça que nous avons contacté avec lui. Nous avons lancé ce projet. C'était After Church. C'est là où j'ai vraiment sorti mes griffes d'entrepreneur. Je cherchais des publicités, des sponsors, des partenaires. Et c'est ce qui m'a poussé directement dans ces terrains-là d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mûrir et jusqu'à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui.
Nous avons compris que vous avez touché un peu à plusieurs choses en même temps. Mais comment va votre entreprise aujourd'hui? Quels sont les moments que vous avez traversés?
Déjà, le secteur d'entrepreneuriat, moi, ce que je veux toujours conseiller, c'est un domaine qui ne doit pas être statique. Donc, on doit éviter le statu quo. Donc, tu es dans un secteur, tu restes là. Parce que déjà, quand on entreprend, il faut avoir la lecture de marché dans lequel tu exerces. Alors, quand j'ai lancé mon entreprise formellement et officiellement, là où je vraiment structuré les choses, nous avons rencontré vraiment des défis d'ordre fonctionnel, parce que vous pouvez avoir tout ce qu'il faut sur le plan organique, oui, vous avez l'organisation, mais maintenant pour fonctionner et avoir vraiment l'accession, la facilité d'avoir du marché, on a trouvé aussi beaucoup de ceux qui étaient déjà dans le secteur, qui nous ont précédés. Alors, c'était pas facile, parce que nous, on n'était pas venus déjà pour le détrôner, mais il fallait seulement créer un espace pour nous. Et c'est le travail de longue haleine, parce que jusqu'à présent, nous continuons à faire ce même travail. Il faut maintenant contourner ces obstacles, contourner ces couacs, contourner ces défis de se faire accepter par les clients, parce que plusieurs clients travaillaient maintenant, quand nous on a lancé, travaillaient maintenant avec de grandes structures parce qu'ils se sont fait déjà rouler plusieurs fois avec de petites agences, tout ça. Alors nous, on devait imposer notre marque, leur prouver de quoi on est capable. Et tout ça, c'est passé par des techniques, des stratégies, des négociations pour que les clients vous accordent du crédit. Alors c'est le travail de tout le temps, vraiment de tout le temps, de consolider la crédibilité, de consolider la rapidité, surtout dans l'exécution de marché. Mais il faudrait aussi dire que le défi que nous sommes confrontés, même les anciennes agences, c'est la prolifération, hein, la multiplication des agences de publicité qui naissent maintenant. C'est là où aussi on demande aux décideurs d'essayer un peu de réglementer, de renforcer la réglementation dans ce secteur-là, parce que beaucoup de gens qui se réveillent d'un bon matin, ils se disent, bon, ce secteur de publicité paye, il vient sans papier, sans reconnaissance officielle, il commence à travailler et il a des relations, il vous contraint d'avoir des marchés, même vos propres clients commencent à le choisir par des contraintes politiques aussi. Tout ça, ça entre en jeu. Alors, mais nous, on reste ferme parce que, comme je le dis en entrepreneuriat, nous n'avons pas seulement à cibler un seul secteur, nous sommes dans la publicité, mais nous avons aussi d'autres projets secondaires qui peuvent appuyer si le secteur-là ne donne pas vraiment ce qu'on attend ou on rencontre des difficultés, on rencontre beaucoup de flops. On peut recourir à 2-3 autres projets à côté pour se maintenir.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Le programme de Bana Okapi ce jeudi était consacré à l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons reçu John Kavavu, entrepreneur social et fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy. Après 17 ans aux États-Unis, il est revenu en République démocratique du Congo pour contribuer au développement en promouvant l'entrepreneuriat local. Cette semaine, il organise à Goma la foire agro-industrielle et artisanale Marifa. L'objectif étant de sensibiliser la population à l'importance de consommer les produits locaux et de soutenir les entrepreneurs congolais. Lunda Frekami, le gérant de l'entreprise Congo Essengo, et John Chongo, collaborateur de John Kavavu, fondateur de l'organisation Marifa Learning Academy, étaient aussi intervenants dans cette émission. À Kinshasa, nous avons reçu Jean-Si Kimbangu, Siwambanza, expert en communication et événementiel, ainsi qu'en management de projet. Il est en même temps général manager de Kim Agency Sarlu et coach en entrepreneuriat et technique des négociations. Il a parlé de son parcours, son expérience dans l'entrepreneuriat. Cette émission a été produite avec Rosalie Zawadi depuis Goma et Sarah Sumbila, une coproduction de Murfifika grâce à Mvizolo. Gisèle Cage était à la réalisation. Jean-Marc Matouaki à la supervision. Une présentation de Stanislas Diomi. Je vous retrouve demain vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.